Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette 45e émission de
Élève-toi
avec les enfants
sur notre radio locale
Radio Vassivière.
Et c'est toujours une émission.
Une émission de Émilie, ma maman.
Oui, c'est Émilie, non pas en direct, j'avoue, j'enregistre au studio de Feltin. Cette émission passe pour la première fois le 20 et quelques mars, 21, le 23 mars, voilà, samedi 23 mars. Si vous voulez écouter un autre jour que cela, bah, c'est juste que c'est un replay, ça arrive des fois. Si vous avez envie d'écouter toutes les autres émissions, vous les trouverez sur radiovassivière.com à l'onglet émissions Élève-toi avec les enfants. La semaine dernière, j'ai commencé la lecture d'un chapitre qui s'appelle Interposer une limite et qui fait partie des 5 outils indispensables qui sont décrits excellemment bien dans le livre Écoute de Patty Wipfler et Tosha Shore. C'est un livre paru chez J.C. Lattès. Maintenant, ça fait un an qu'il est traduit en français. Ça fait bien longtemps qu'il existe en anglais. Ça vient des États-Unis. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais je réintroduis un petit peu pour ceux qui découvrent aujourd'hui, eh bien, ce livre est issu d'une expérience longue et partagée avec beaucoup de professionnels. Ce n'est pas un livre issu de la théorie ou issu du cerveau de quelqu'un comme ça, de sortie de nulle part. Non, ça s'appuie sur de longues années d'expérience, d'aller-retour entre la théorie et la pratique, par Patty Wipfler, qui s'occupe d'enfants dans des crèches. Mais ça ne va pas concerner que les enfants dans des crèches, c'est ça qui est chouette, ça concerne un petit peu tout le monde. Et donc il y a 5 outils de base, le temps spécial ou temps particulier, le jeu écoute, la limite à interposer de manière juste et calme et responsable en même temps, et rester écouter les émotions de l'enfant et également le partenariat entre adultes. Voilà, moi je pratique au plus possible les 4 premiers, le 5e je ne le pratique pas parce que je pratique d'autres choses, voilà, c'est par la pratique d'enseignement, avant Maître Omra, Michael Ivanov, et maintenant les enseignements à IAM. Vous pouvez ça trouver tout ça en lien sur mon site qui apparaît en dessous l'article de cette émission sur le site de la radio, voilà. Donc là, j'avais envie de développer plus l'outil interposer une limite. Je rappelle qu'avant tout, pour pouvoir poser une limite à un enfant dans de bonnes conditions, il faut avant tout être connecté avec lui. Je ne pose pas une limite si je suis agacée. Je ne pose pas une limite si j'ai envie de lui mettre une baffe. Je ne pose pas une limite si j'ai envie de lui faire la morale. Non, je pose une limite quand j'ai le cœur grand ouvert et que je le regarde comme l'enfant chéri qu'il est. Et que je suis prête à venir poser une limite de manière juste, claire, calme. Et de prendre le temps que ça va prendre pour la poser. Donc c'est ça le préalable de l'état dans lequel je dois être à ce moment-là pour pouvoir la poser. Sinon il vaudra mieux commencer par du jeu écoute ou par un temps spécial si je ne suis pas prête à poser une limite. Et donc on part aussi bien sûr de l'idée que l'enfant a besoin de limites. Hein. Une éducation bienveillante, ce n'est pas une éducation sans limites. Ce n'est pas une éducation sans exigence. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'exigence. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que je le vis. Voilà, je vais reprendre la lecture. Donc, je lis. Et puis, si des fois, je trouve ça pertinent que je m'arrête, je m'arrête. Sinon, je me tais. Voilà. On avait vu, juste avant que je reprenne, que plutôt de prendre la casquette du policier, eh bien on prend la casquette du premier secours. Je lis. Avec cette casquette de premier secours, tu t'imprégneras des détails de chaque nouvelle situation et partageras tes réflexions avec ton enfant. Tu l'initieras ainsi à la pensée critique et tu lui enseigneras à respecter ton point de vue. Si la règle est pas de dessert pendant la semaine, mais que la voisine sonne à ta porte avec un plateau de cookies sortant du four, peut-être qu'il est ok de dire oui au dessert. Cela ne veut pas dire subitement que c'est cookies à volonté tous les soirs. Tu montres que pour toi, cela fait sens de déguster des cookies chauds ce soir spécifiquement. Donc pour commencer, il est important d'analyser la situation. Est-ce que la sécurité de quelqu'un est en jeu ? Si ce n'est pas le cas, tu peux t'accorder un moment pour décider si oui ou non une limite a du sens. Apprendre à être flexible pendant les crises émotionnelles d'un enfant prend du temps parce que souvent, nous ne faisons pas la différence entre nos propres émotions violentes et celles de l'enfant. Limiter les débordements de ton enfant t'inquiète ? Plus tu partageras tes préoccupations avec ton partenaire d'écoute, plus rapidement tu maîtriseras l'outil interposer une limite. Dans un partenariat d'écoute, tu peux expliquer comment, quand tu étais enfant, tes parents recadraient tes comportements. Pester contre leurs réactions si jamais, petite, tu te conduisais comme ton enfant. Chercher à comprendre ta manie obsessionnelle de poser des limites, ou à l'inverse, pourquoi la seule idée de stopper un débordement t'épouvante. Plus tu exprimeras tes émotions à un partenaire de confiance, plus il sera facile pour toi d'intervenir face à un comportement difficile. Quand le comportement de ton enfant se détraque, il est temps d'arrêter tout, d'écouter et de réfléchir. Tu peux t'agenouiller pour placer tes yeux à la hauteur des siens et lui montrer ton intérêt. Inutile de gronder, d'aboyer ou de donner un avertissement. Tu peux lui demander pourquoi il hurle ou pourquoi il doit absolument mettre le t-shirt bleu qui est dans un châle. Parfois, nous croyons que l'enfant déraille alors qu'il est tout à fait clair dans sa tête. L'écouter d'abord lui offre le bénéfice du doute. Très rapidement, tu parviendras à analyser et à comprendre ce qui se passe. Première question. Ton enfant a-t-il besoin d'informations ou d'aide ? Par exemple, s'il s'énerve parce qu'il ne trouve pas sa seconde chaussette, tu peux lui suggérer quelques endroits où la chercher. Si tes deux aînés se coursent dans la maison et risquent de réveiller le bébé, tu peux les guider et déplacer leur jeu dehors. Parfois, la situation demande de légers coups de pouce pour repartir dans une meilleure direction. As-tu besoin de réviser tes attentes ? Deuxième question. Le comportement de ton enfant peut te sembler inconvenant parce que tes attentes ne sont pas adaptées à son âge ou à ses capacités. Si par exemple, tu t'attends à ce que ton garçon de 3 ans reste calmement debout à tes côtés pendant les 30 minutes que durera le contrôle technique de ta voiture, tu auras droit à une grosse déception. Il a 3 ans et il déborde de vie. Ou bien, si ton fils a enchaîné des années difficiles sur le plan scolaire, tu ne peux pas espérer qu'il s'asseye à son bureau tous les soirs pendant une heure et fasse ses devoirs tout seul comme les autres élèves de CM2. Il peut se muscler sur le plan académique, mais son niveau de confiance est tombé dans ses chaussettes. Il a besoin d'une dose supplémentaire de soutien pour y arriver. S'il te semble souvent incapable de répondre à tes attentes, tu peux demander l'avis d'une personne qui connaît bien les enfants. Tu en tireras peut-être des informations utiles et un nouveau point de vue. Un exemple aussi d'attente que j'ai pu observer, si on dit à un enfant de 2 ans que c'est l'heure d'aller à la sieste, à avoir l'attente qu'il se lève de lui-même en montant les escaliers en disant « Youpi, je vais à la sieste », c'est inutile, hein, ça ne marchera pas, c'est pas comme ça que ça a marché. Troisième question. Ton réservoir est-il vide ? Parfois, nos enfants se lancent dans ces activités propres aux enfants actifs qui nous rendent chèvres. Course-poursuite dans l'appartement, fou rire après l'extinction des feux, salut à plein poumon envoyé aux automobilistes par la fenêtre ouverte de la voiture. Ce sont des activités amusantes et saines, mais quand nos journées sont rudes, nous ne les supportons plus. Préserver ton équilibre est une bonne raison d'interposer une limite. Autant être honnête et expliquer à tes enfants qu'il n'y a aucun problème avec l'activité choisie, mais qu'elle est impossible à cet instant précis à cause de tes besoins. Voilà, donc je précise là-dessus, on n'est pas obligé d'avoir des règles immuables, surtout à respecter tout le temps. Il est important que l'adulte sache entendre l'état dans lequel il est et puisse poser une limite à un moment qu'il ne posera pas à une autre. Si on la pose tout de suite et calmement en disant « Oh là, non, là je ne suis pas apte pour ça là, en ce moment, non. Là tout de suite, c'est non. » Et bien voilà, tout va bien, les enfants ils entendent que là tout de suite, c'est non. Mais plus tard, ben, ça sera oui si c'est quelque chose qui est possible. Nouvelle question. Ton enfant a-t-il perdu les rênes de son comportement ? Tu connais les signes. Plus tu utiliseras les outils d'écoute, mieux tu décoderas et comprendras ton enfant. Souvent, tu auras l'intuition de ce qui se passe en un clin d'œil. Si elle hurle avec colère et court partout dans la maison, attrapant tout dans les mains et des autres, ou refusant de descendre du lit du haut qui se trouve être celui de sa sœur. Et si tu ne fulmines pas toi-même de rage, c'est simple. C'est le moment d'interposer une limite. Voilà, c'est ce que je disais, hein, si tu ne fulmines pas toi-même de rage. Hein, sinon, c'est pas du tout le moment de poser une limite. Donc ça, c'était la première étape hein, pour prendre les informations. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Hein, est-ce qu'il manque quelque chose à l'enfant ? Est-ce qu'il a juste besoin d'un petit coup de pouce ? Est-ce que c'est juste notre état tout de suite là qui permet pas ça ? Ou est-ce que non, on voit que vraiment l'enfant, il est déconnecté, il est off track et il a besoin de la limite qui va l'aider à faire tout remettre en ordre après avoir bien déchargé. Étape 2, interposer une limite. Tu n'as pas besoin d'être sévère. Et oui, là je m'arrête. Dire non, et c'est pas dire non méchamment, forcément on peut dire non gentiment, avec clarté, bienveillance. Hein. Dire non, ça veut pas dire être méchant. Dire non, ça veut pas dire être autoritaire. Je continue. Plutôt que de hurler et donner un ordre de gronder ton enfant pour son comportement inacceptable, tu peux simplement t'interposer entre lui et sa bêtise. Tu n'es plus le crieur public, tu te transformes en super-héros parce que tu t'interposes. La plupart des parents posent une limite ou la hurlent. Arrête de tigrer les cheveux de Mia ! Ou essaie un peu de lancer cette chaussure ! Mais rester debout face à ton enfant avec ton porte-voix ne peut que générer de la frustration parce que ton enfant ne comprend rien à tes propos. Il ne peut pas maîtriser son propre comportement. S'il le pouvait, il ne tirerait pas les cheveux, il tirerait les cheveux de personne et il ne lancerait pas ses chaussures. Ah, c'est rigolo cet exemple de lancer une chaussure. Je vais m'arrêter là pour raconter une petite anecdote. Ce midi, je suis allée chercher mon fils de 5 ans à l'école. Et en rentrant, il enlève ses chaussures et il me la balance dessus. Alors ma première idée, c'est de lui dire « Oh oh !» Moi, quand je vois une main faire ça, je suis obligée de l'attraper, de la garder pour l'instant, pour être sûre qu'elle ne va pas faire d'autres bêtises. Et là, mon conjoint bien détendu à côté dit « Oh, il a besoin que tu sévisses avec lui !» Donc ça, notre petit jeu, c'est ce qui les fait bien rire. Je lui écoute, hein, je sévis. Je fais semblant d'être en colère et je sévis, mais bien sûr, je rate toujours mon coup. Oui, et mon conjoint, lui, il met des dérouillés. Hein. En fait, il essaie de faire des nœuds avec les bras, avec les jambes, voilà. Et oui, ça fait mouche, ça lui parle bien, hop, on va sur le lit, c'est le meilleur endroit pour ça, il a très envie que je le suive. Et puis je commence à sévir, donc quand je sévis, je prends un coussin, puis je rate ma cible, je lui dis « mais qu'est-ce que c'est cette histoire de question que je me fasse jeter une chaussure dessus ?» Et il rigole et il continue, et puis après il se transforme en petit chat. Voilà, il aime bien faire le petit chat. Et puis de petit chat, je le prends dans mes bras, je le cajole, je le câline, je regarde si tout fonctionne bien. Enfin, on continue juste en jeu, écoute, comme ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est bon, tranquille, hein, on peut redescendre. Donc, je n'ai pas fait un flan de me prendre une chaussure dessus, c'est pas mon ego qui a réagi. Mais je n'ai pas rien fait non plus. Hein. Je suis venue me connecter à lui. Et on a eu ce temps de jeu écoute avant de passer à table. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on en est à... on a vu que là, c'était le moment de poser une limite. Donc, il va falloir la poser. C'est le moment pour toi de montrer la limite. Tu t'interposes avec un contact physique rapide et respectueux à la fois. Par exemple, tu attrapes la main de ton enfant et doucement tu la lui ouvres pour libérer les cheveux de Mia. Ou tu appuies sur son bras pour l'empêcher de lancer la chaussure. Si la chaussure s'est déjà envolée, tu peux calmement lui prendre le poignet pour éviter qu'il en jette une autre. Tu mets ainsi un terme définitif à son comportement inacceptable avec une limite physique et aussi peu d'émotions parasites que possible. Voici l'histoire d'une maman qui a établi une limite aux achats réclamés par son enfant. Cet exemple montre comment le problème d'un enfant fond comme neige au soleil quand nous lui offrons notre attention plutôt que l'objet sur lequel il fait une fixation. Quand nous avons appris que les porteurs de la torche olympique emprunteraient la rue devant chez nous, ce fut l'enthousiasme. Le jour J, mon fils de 6 ans était fébrile et impatient de sortir. Nous avons trouvé un bon point de vue perché sur un mur. Enfin, les coureurs et le porteur de la torche sont apparus. Ils sont passés devant nous et nous les avons applaudis avec de grands signes des bras. Mes enfants ont souhaité courir un peu derrière la torche, alors je les ai accompagnés. Puis mon fils m'a demandé encore et encore d'acheter une des babioles olympiques que les autres enfants brandissaient ou exhibaient. Des baguettes avec des rubans verts, de fausses médailles olympiques. J'avais déjà offert à chacun de mes enfants un drapeau à agiter et je n'avais ni l'argent ni l'envie de leur acheter quoi que ce soit d'autre. Nous sommes arrivés dans une galerie marchande. Mon fils s'est plaqué contre l'entrée d'un magasin de sport au présentoir rempli de ses babioles olympiques. Alors j'ai précisé la limite. Je me suis agenouillée. Une fois au niveau de son regard, je lui ai dit avec douceur. Non, nous n'achèterons pas de souvenirs olympiques maintenant. Il s'est mis en colère et m'a répondu qu'il me mordrait si je ne lui achetais pas quelque chose. Sa véhémence m'a surprise. Mais j'ai déclaré que je ne le laisserais pas me faire mal. Il a essayé de me donner un coup de pied et j'ai gentiment tenu sa jambe en lui répétant que je ne le laisserais pas me faire mal. Il a dit que je devais lui acheter quelque chose. J'ai répété sans m'énerver que je ne lui achèterai aucun souvenir olympique aujourd'hui. Sa colère s'est transformée en larmes. Il a sangloté. « Je veux quelque chose que je veux garder toute la vie !» Et là, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. J'ai eu de l'empathie pour son enthousiasme, suivi peut-être de déception parce que tout s'était passé si vite. J'avais conscience que je m'exerçais à interposer une limite pleine d'amour et j'avais confiance dans l'idée que cela serait plus utile pour lui sur le long terme qu'une bricole olympique. Il a pleuré et je suis restée auprès de lui à écouter. Au bout d'un moment, il a pu quitter la boutique et sa bonne humeur est revenue. Ce soir-là, avant de partir à mon cours, je lui ai dit au revoir avec un grand câlin et un bisou. Il m'a suivi jusqu'à la porte et m'a donné un autre câlin, m'a soufflé de nombreux bisous et m'a redit au revoir de la main tandis que je m'éloignais. Dans son geste affectueux, j'ai senti le lien entre nous consolidé par mon intervention. J'avais réussi à interposer une limite avec amour. Quand tu interposes une limite, tu agis d'abord et tu parles ensuite. Par exemple, si ton enfant donne des coups de pied et tape sur quelqu'un ou quelque chose sans prononcer le moindre mot, tu le prends sur tes genoux, l'éloignant ainsi de sa cible. Ou si ta fille crie « Brems !» pour s'asseoir sur le siège auto préféré de la fratrie, mais que son frère se précipite et lui pique la place. Tu peux poser la main sur le genou de ce dernier et tirer gentiment sur son pantalon. Il est temps de descendre de là, ta sœur a dit « Brems !» Inutile de le forcer manu militari à sortir du siège, inutile aussi de lui promettre qu'il sera le premier la prochaine fois. Il suffit de tirer doucement sur son pantalon de temps en temps, de le laisser pleurer abondamment jusqu'à ce qu'il se rappelle que dans le fond, il est généreux. Après avoir interposé une limite, tu peux te détendre et te concentrer sur ce qui se passe. Tout occupé qu'il était par son comportement débordant, ton enfant ne sentait pas l'émotion douloureuse qui le gênait. Quand tu interviens pour stopper son comportement, que tu montres à l'enfant ta disponibilité à l'écouter, il peut enfin se libérer de ses tensions. Peut-être qu'il se débattra, hurlera ou se sauvera en courant pour échapper aux furies qu'il porte en lui. Il est important que tu restes auprès de lui. Il a besoin de ta bienveillance et de ton attention. Selon mon expérience, il est contre-productif de punir quand nous interposons une limite salutaire. À la minute où la menace physique ou verbale fuse, à la seconde où la porte de la chambre se referme sur la solitude de notre enfant, nous ajoutons une nouvelle blessure, une peur, une attaque ou un sentiment d'isolement à celle qui l'empêche de penser. Son cerveau rationnel ne fonctionne pas, quelle que soit la leçon que tu avais l'intention de lui inculquer. Elle lui passe au-dessus de la tête. Il était en souffrance avant que sa conduite ne devienne gênante et la punition ne peut que l'embrouiller encore davantage. Il n'a pas volontairement perdu le contrôle de son comportement. Il a désespérément besoin de retrouver son lien avec toi. Il a besoin que tu l'empêches de faire n'importe quoi, puis que tu lui tendes la main pour renouer le contact aussi vite que possible. Étape 3. Écouter. Cette étape vient couronner les deux autres et est la plus précieuse. Une fois que tu as interposé une limite, écouter l'émotion douloureuse de ton enfant lui permet de guérir de sa blessure, quelle qu'elle soit. L'information du chapitre 4, rester écouté, du chapitre 6, le jeu écoute, peut te guider. Inutile de t'attendre à ce que ton enfant retrouve rapidement ses esprits. S'il a explosé parce que sa sœur a gribouillé sur son cahier de dessin, tu peux te réjouir de ce coup de chance qui lui offre la possibilité d'exprimer ses émotions. Ton intervention, interposer une limite en l'éloignant d'un mètre de sa sœur pour l'empêcher de déverser sa rage en la tapant, puis ton écoute accueillant ses pleurs et sa transpiration, vous épargneront à tous les deux de nombreuses altercations futures. Il me semble que les enfants utilisent parfois de petites crises pour tâter le terrain. Nous interposons une limite plutôt ordinaire, inconscients de la blessure émotionnelle gigantesque enfouie en eux. Si nous gérons les 5 ou 10 premières minutes de leurs pleurs avec tact, ils travailleront ensuite sur l'expression de cet autre problème plus important. Une mère partage. C'était bien après l'heure du coucher, mais ma fille ne dormait toujours pas. Depuis quelques semaines, elle avait du mal à s'assoupir. Je soupçonnais que des peurs gênaient son endormissement. J'avais augmenté le nombre de mes séances d'écoute pour creuser le problème. Quelques jours auparavant, nous étions rentrés d'un week-end de passer chez un membre de la famille. Là-bas, dans une friperie, nous lui avions acheté un ours en peluche de couleur marron clair. Elle l'avait surnommé Caramel. Nous avons une règle. Les choses que nous achetons quand nous sommes chez cette personne restent chez elle jusqu'à notre tour. Ma fille avait vraiment voulu rapporter Caramel chez nous, mais j'avais tenu bon. À la maison, elle n'arrivait pas à s'endormir sans Caramel. Or, ma fille n'est pas du tout brimée dans le domaine des animaux en peluche. En réalité, la maison est pleine à craquer d'animaux en peluche. C'est là que j'ai eu un moment eureka. Avant, j'aurais cru qu'elle pleurait pour la raison qu'elle invoquait. J'aurais essayé de la réconforter du mieux que je pouvais. Mais ce soir-là, c'était différent. J'ai compris qu'elle ne pleurait pas du tout à cause de Caramel. Caramel, été, roulement de tambour s'il vous plaît. Un prétexte. Ma fille pleurait à cause de tout ce qui l'empêchait de dormir, tiens donc. Une fois l'ampoule allumée dans ma tête, je me suis assise près d'elle et je suis restée à l'écouter. Elle pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit que Caramel était en sécurité et serait là pour l'accueillir lors de sa prochaine visite. Elle a repris ses sanglots. Je m'étais préparée à rester écouter un long moment, mais elle a terminé en à peine 5 minutes. Puis elle s'est installée sous la couette et s'est vite assoupie. Elle a dormi toute la nuit d'une traite et depuis je n'ai pas entendu le moindre piaillement au sujet de Caramel. Elle s'endort aussi plus facilement désormais. Je suis encore sous le coup de la surprise. C'était simple en fait. Et si jamais Caramel lui manque de nouveau, je saurai exactement quoi faire. Allez, voici pour un petit peu plus s'avancer dans la lecture de ce merveilleux livre « Écoute » de Patty Whipflair.
Musique maintenant.
Nous allons écouter ce très beau morceau de musique. Je ne sais pas si je vais encore bien le prononcer. Verdi Nabucco, acte 3, Va pensiero sulla lidorate. C'est sans doute très mal prononcé, mais c'est très beau. C'est parti.
Thank you.
Et voici un morceau de Verdi, Nabucco. C'était par Julius Rudel, Utah Symphony Orchestra. Voilà, je vais vous partager... Ah oui, déjà, envoyez-moi vos réponses, s'il vous plaît, à cette question. Imaginez un coup de baguette magique, vous avez la possibilité d'intervenir dans la vie de l'adolescent, l'adolescente que vous avez été. Pendant 20 secondes, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre à cet adolescent que vous avez été? Vous m'envoyez vos réponses, emily.roudier23@gmail.com. Je vous remercie pour tout cela. Alors, je vais vous partager voilà, cette anecdote. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait mal à notre enfant sans faire exprès? Voilà, c'est arrivé... Un enfant qui se prend une chaise parce qu'il passe à ce moment-là, juste au moment où la chaise est en train d'être bougée. Et bing, ça fait mal. Alors, il y a plein d'actions, de réactions d'adultes possibles. On va essayer d'en trouver une équilibrée, satisfaisante. Voici celle que je vous propose. Se taire. Juste dire, je m'excuse, je te demande pardon, je n'ai pas fait exprès, je ne voulais vraiment pas te faire mal. Et on s'en arrête là. Et on écoute. Alors, dans ce cas, mon fils, il était vraiment pas content. Il avait envie de taper, de taper, de taper, de taper celui qui lui avait fait mal, même sans faire exprès. Alors, on va pas laisser l'enfant nous faire mal. On va pas, là, on interpose une limite. On va pas le laisser nous faire mal. Par contre, on peut lui tendre nos mains pour que ce soit à cet endroit-là qu'il vienne taper et lâcher toute sa colère. Ça, oui. C'est pas va taper dans le coussin là-bas, non. C'est tiens, voilà. Si tu veux taper quelque part, là, vas-y, dans mes mains. Vas-y, tape dans mes mains. Et s'il essaie vraiment de nous faire mal en tapant ailleurs, alors non, on interpose une limite, on ne laisse pas faire avec tout l'amour possible comme ça vient d'être présenté dans le livre, là, dans les extraits que j'ai lus juste avant ce joli morceau de musique. Donc, si c'est beaucoup d'agressivité qui sort, je m'empêche vraiment qu'il me fasse mal. S'il est capable de venir taper dans mes mains pour faire sortir toute sa rage, alors super, qu'il fulmine, voilà. Et peut-être que ça peut, nous c'est ce qui s'est passé, ça peut s'évoluer en jeu écoute. Si on sent que qu'il est plus complètement pris dans une tempête émotionnelle, que c'est pas de la violence, de la colère qui est en train de sortir, eh bien, ce qui est venu, c'est au bout d'un moment qui tape dans les mains, ouah, 1000 fois, 1000, 1010 fois, 1020 fois, 1 000 000 de fois, et puis ça le faisait rire. Et il a continué de taper comme ça, et ça a fini en petite chamaille, en jeu physique, voilà. Ce qui était important, en tout cas, c'est qu'il y ait un renversement de pouvoir. C'est que l'enfant, ce soit lui qui puisse prendre le dessus à un moment. Donc l'adulte, il a fait celui qui a pu... Parce qu'il n'y avait pas de colère. S'il y avait de la colère, c'est important de ne pas laisser l'enfant venir nous faire mal. Et de ne pas venir s'esclaffer, tu me fais mal. Voilà, le mettre dans une situation qui serait vraiment difficile pour lui, il aurait vraiment une mauvaise image de lui-même où il aurait fait mal à son parent ou à l'adulte qui le prend, qui s'occupe de lui. Donc, s'il y a de la colère, vraiment, là, c'est autre chose, c'est accueillir la colère. Mais si on n'est pas dans la colère, eh bien, juste que l'enfant, là, hop, il a juste besoin de retourner la situation, d'être celui qui va être plus fort, et bien, on peut proposer, enchaîner par un jeu écoute. Et puis après, bah voilà, quand c'est fini, au moment, on peut revenir et tout va bien. C'est complexe tout cela, et oui, et tout ce que... Enfin, c'est complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. Ça veut dire qu'il y a plein de paramètres, plein de choses à observer. Et plus on est dans l'écoute, l'observation et la connexion avec nos enfants, plus on est capable justement de déceler qu'est-ce qui est en train de se jouer. Ça veut pas dire qu'on va pas se tromper. On fait de notre mieux pour pas se tromper. Mais quand même, on devient de plus en plus fin. Voilà, c'était la 45e émission de...
Élève-toi
avec les enfants.
Toujours sur notre radio locale.
Radio Vassivière.
Et oui, maintenant, c'est chaque samedi.
À 15h.
À 16h, j'ai pas changé.
Sur Radio Vassivière.
Sur Radio Vassivière à 16h, voilà, c'est ça. Envoyez-moi vos questions.
Une émission de Émilie, ma maman.
Émilie, sa maman, bah, qui attend vos questions. J'aimerais bien faire des émissions à partir de vos questions, ça serait top, top, top. Allez, tout plein de liens sous l'émission qui peut être téléchargé sur le site. Et je vous souhaite une excellente, excellente journée avec ou sans enfants. Je vous embrasse et à bientôt.
Élève-toi
avec les enfants.